9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
« 17 décembre 1950, nous sommes à Saïgon, qui à cette époque-là est devenue capitale de l'Indochine française. À l'aéroport de la ville, une petite foule de militaires et d'officiels scrute dans le ciel l'arrivée d'un avion Constellation qui se pose sur le tarmac. Plusieurs passagers en descendent, dont le ministre de la France d'Outre-mer, Monsieur Le Tourneau. » Ce n'est pas le ministre qui est attendu par tous ceux qui se sont rassemblés en vérité. C'est celui qui arrive juste derrière, un homme en grande tenue blanche qui observe la foule d'un air très sûr de lui. Ce 17 décembre 1950, la France a dépêché en Indochine le plus prestigieux de ses généraux, Jean Delattre de Tassigny, un héros de la Seconde Guerre mondiale bien sûr, le roi Jean comme le surnomment ses hommes, qui entre en scène dans cette région où la France est en grande difficulté. « Je suis venu pour vous sauver, dit-il à ses officiers. Désormais, au moins, vous serez commandés. » Il faut dire que la situation de la France dans ce qu'on appelait juste avant la guerre la perle de l'Empire est assez mauvaise. Il y a eu bien sûr cette occupation japonaise, les Japonais remplacés en 1945 par des troupes anglaises et russes. Et puis, depuis 1946, la guerre est engagée entre cette puissance coloniale, la France, et la puissance favorable à l'indépendance, le Viet Minh, dirigé par Ho Chi Minh. Et cette guerre, elle s'est enlisée depuis 3-4 ans. En 1949, vous savez que la Chine est devenue communiste. Mao est arrivé au pouvoir et cette Chine s'est impliquée dans le conflit. Elle a armé les communistes vietnamiens et le commandant en chef de l'armée populaire vietnamienne, le célèbre général Giap, a décidé d'engager les Français dans ce qu'on doit pouvoir appeler une guerre d'usure, le fameux combat du tigre et de l'éléphant qu'avait annoncé Ho Chi Minh. Si le tigre ne bouge pas, évidemment, il va se faire écraser par le gigantesque éléphant français. Seulement, le tigre vietnamien peut se déplacer sans cesse et frapper ici et là. L'ennemi est invisible, chaque mètre carré devient un potentiel piège pour une embuscade. Et il y a un caporal de l'armée française qui confie « Ces pièges cachés qui transpercent le pied deviennent notre hantise. Chaque fois, c'est une blessure qui s'infecte. Et en quelques mois, la France a comme ça perdu des milliers d'hommes. Elle s'est dispersée. Les hommes en question ne sont pas tous tués. Certains sont simplement blessés. Il n'empêche, ils deviennent inopérants. Et la panique, peu à peu, s'est emparée des chefs français. Des bases ont été abandonnées. Des tonnes de matériel ont été cédées à l'ennemi sans combattre. Et en 1950, le Viet Minh est devenu maître de toute la frontière nord. Il peut faire transiter le matériel chinois le plus librement du monde. Il y a un jeune soldat qui écrit à son père, sans vouloir et pouvoir faire de critique, « Je crois que nous sommes commandés par des cons ». Le jeune soldat en question, c'est Bernard Delattre de Tassigny. Vous avez compris que son père, c'est le général envoyé par Paris pour essayer de redresser cette situation qui semble de plus en plus difficile et qui échappe, disons-le, de plus en plus au contrôle de la France.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Un mot peut-être de Jean Delattre de Tassigny, qui est né en Vendée en 1889. Sa carrière militaire a commencé dans la cavalerie en 1912, cavalerie au sein de laquelle il a fait ses armes au tout début de la Grande Guerre. Il a été en 1915 volontaire pour rejoindre non pas l'aviation naissante comme l'ont fait un certain nombre de grands cavaliers de l'époque, mais l'infanterie, et il est allé combattre comme tous les combattants de 14 du côté français, ou presque, à cause de cette noria, vous savez, il est allé combattre à Verdun. Il se trouve que le village dont est originaire Jean Delattre est aussi celui de Clémenceau. Et Clémenceau, lorsqu'il le rencontre, dit « Regardez-le bien, celui-là, et souvenez-vous de lui, Il ira loin, très loin. Il n'y a pas seulement une solidarité d'origine géographique dans cette déclaration. Dans l'entre-deux-guerres, Delattre a pris conscience de la menace que représentait l'Allemagne. C'est un homme lucide, extrêmement clairvoyant. Il a anticipé dès 1934 une attaque allemande de la France par la Belgique. Il y en a un autre qui voit ce genre de choses, c'est De Gaulle, hein, bien entendu. Sauf qu'en 1939, le plus jeune général de France, qui a 51 ans, contrairement à De Gaulle qui lui s'exile à Londres, le plus jeune général de France, Delattre, va reconnaître l'armistice signé par Pétain. Il reste dans l'armée française et il va s'investir, comme l'ont fait tant d'autres, dans la formation des cadres de l'armée. Pour certains, son activité cependant ne laisse pas de doute. Delattre est sympathisant gaulliste. Son école est qualifiée de pépinière de gaullistes triés sur le volet, ayant pour but de préparer une véritable élite militaire destinée à prêter main forte à un corps de débarquement anglais ou gaulliste. Vous voyez que ses supérieurs ne se font pas tellement d'idées sur ce que sont ses opinions. D'ailleurs, il va être jeté en prison par le régime de Vichy en 1942. Il arrive à s'échapper, il rejoint Londres, puis Alger, où De Gaulle va lui confier le commandement de ce qui va devenir la première armée, bien sûr. Après pas mal de victoire. C'est cette armée qui, la première, arrive sur le Rhin. On est en novembre 44, là. Et donc, Delattre est choisi par De Gaulle pour représenter la France au moment de la signature de l'acte solennel de capitulation de l'Allemagne, à Berlin, le 8 mai 1945. Et alors que la France, qui ne devait participer à tout ça qu'en tant que spectatrice, est un petit peu mise sur la touche, eh bien, Delattre va parvenir à imposer sa signature sur l'acte et le drapeau français va se retrouver à côté des drapeaux américains, britanniques et soviétiques. On doit ça, bien sûr, d'une façon générale à la politique du général de Gaulle, mais on le doit aussi, disons-le, à l'extraordinaire capacité tactique du général Delattre. Ça fait beaucoup de faits d'armes, tout ça. Delattre est auréolé de la gloire qu'il a acquise pendant cette période de la libération. Il est le meilleur atout du gouvernement français qui, en métropole, est pressuré par le Parti communiste, qui organise à l'époque de grandes manifestations contre la guerre en Indochine, parce que là-bas, dans ce qu'on appelait donc la perle de l'Empire, le génie militaire du général Delattre, sa capacité surtout à faire face à des situations complexes, à s'imposer, à tenir bon, tout ça va pouvoir être utilement mis à l'épreuve. Le final de la première symphonie de Honegger, l'orchestre symphonique de Bâle était sous la baguette de Dennis Russell Davis.
Vous écoutez Radio Classique.
Ne nous y trompons pas, le général Delattre, quand il arrive en Indochine, a les pleins pouvoirs. Hein. Il est investi du haut commandement civil et militaire. En plus, il sait se mettre en scène, ce général. Il est attaché au symbole. Par exemple, quand il arrive au Tonkin, donc dans le nord de l'Indochine, à Hanoï, qui a été la capitale administrative, la vraie capitale de l'Indochine française, il organise un grand défilé où près de 5000 hommes vont défiler dans le soir qui tombe. Je suis venu pour les lieux lieutenants et les capitaines, déclare-t-il. Évidemment, un peu de démagogie dans tout ça. L'époque des replis est révolue, en tout cas c'est ce qu'il veut qu'on pense. Nous ne céderons plus un pouce de terrain. Vous imaginez que d'un seul coup, on soupire un peu dans les rangs de l'armée française. Alors, du côté du Viet Minh, on n'attend pas... On n'attend pas longtemps pour reprendre les combats. Dès le jour de Noël 1950, le général Giap lance une offensive générale au nord du pays. 30 000 hommes qui vont se lancer sur des défenses françaises, disons-le, mal préparées. Situation critique. Delattre prend le contrôle de la situation. Il réquisitionne les avions civils pour acheminer partout des renforts. Il introduit une nouvelle arme. Ce sont des obus spéciaux qui ont été fournis par les Américains, le fameux napalm, de l'essence gélifiée qui est utilisée dans les bombes incendiaires. Un combattant vietnamien raconte « Les avions piquent et c'est l'enfer qui s'ouvre devant mes yeux, une flamme immense qui se propage sur des centaines de mètres et qui sème la terreur dans les rangs des combattants. Le napalm, le feu qui tombe du ciel et ces bombes, Delattre ne va pas rechigner à les utiliser. Il se soucie très peu des réactions que ça peut provoquer internationalement. Hein. Il n'y a pas de guerre propre. Son utilisation par les Américains en Corée n'a provoqué aucune réaction, donc il va utiliser le napalm lui aussi. À Vinienne, on est dans le nord du Delta, en janvier 51, le général Delattre gagne sa première bataille contre le Viet Minh, qui va perdre plus de 8000 hommes, et c'est pour la France une première victoire depuis le début de ce qui est une sorte de guerre. C'est une guerre d'indépendance en vérité. Victoire assez âpre, puisque du côté français, on déplore aussi des pertes lourdes. Le haut commandement découvre avec stupeur une chose qui se révèle inquiétante pour l'avenir, ce sont les attaques massives à la chinoise, conduite au coude à coude par une véritable marée humaine. La guerre d'Indochine, là, est en train de changer de nature. C'est plus une guérilla sporadique. Ce sont maintenant de véritables attaques avec, sur le terrain, des face-à-face meurtriers. Pour Delattre, maintenant, il va s'agir d'orchestrer sa fameuse victoire, faire savoir au monde entier que son entrée dans la guerre d'Indochine a commencé par un éclatant succès. Ça, c'est de l'ordre de la communication, il maîtrise tout ça très bien. Delattre va réorganiser les organes de presse qui deviennent des armes de communication destinées à vendre cette guerre à une opinion française assez indifférente et une opinion internationale plutôt hostile. À quoi bon remporter des victoires si l'univers les ignore? C'est ce qu'il dit à un journaliste que vous connaissez par ailleurs, c'est Lucien Baudard, qui a passé toute son enfance en Indochine et qui suit Delattre de près. Les soldats français se trouvent requinqués de leur côté. Ils ont un chef, là, maintenant, il n'y a plus de doute. L'année 1951, qui s'annonçait victorieuse pour le Viet Minh, devient un calvaire pour les troupes du général Giap. Et cette année correspond aussi à un drame personnel pour le général français, puisque le 30 mai 1951, au moment, pendant la bataille de Ninh Binh, son fils, Bernard Delattre de Tassigny, va être blessé, et blessé mortellement. Le général est plus qu'abattu. Il rejoint son épouse à Paris, son épouse Simone, pour inhumer leur fils dans la cour des Invalides, où un hommage est rendu à Bernard et à ses camarades qui étaient tombés avec lui. Vous imaginez la difficulté pour celui qui est le commandant en chef en Indochine. Et puis quelques jours plus tard, il est de retour sur place pour développer cette fois une nouvelle stratégie, l'édification de ce qui devrait être une armée nationale vietnamienne. Delattre veut faire participer les Vietnamiens à la lutte contre les communistes. Vous voyez, on change de registre. Ce n'est plus une guerre coloniale, ça devient une guerre politique avec un pari réussi, puisque de 25 000 hommes en 1949, les troupes vietnamiennes passent à 130 000 hommes. Qu'importe si ces hommes-là sont sans expérience, le Viet Minh, après tout, a montré qu'un soldat sans instruction peut devenir un excellent combattant à condition qu'il soit bien encadré. On va avoir des instructeurs français, bien sûr, qui entraînent tous ces Vietnamiens qui doivent se battre maintenant contre l'armée Viet Minh, considérée d'abord et avant tout comme une armée communiste. En fait, Le niveau va beaucoup dépendre du moral de la nation, de son investissement dans le conflit. C'est en tout cas ce que pense le général Delattre. Or, de ce point de vue-là, il y a beaucoup à faire. Delattre va tenter de résoudre le problème en mettant en avant une personnalité originaire d'Annam, du Vietnam. C'est l'empereur Bao Dai, avec qui il va s'afficher maintenant publiquement. Sauf que Bao Dai, qui a été rétabli sur le trône par la France en 1949, disons les choses, ne montre pas un très grand enthousiasme. Son autorité est bien faible, son gouvernement est incapable de faire grand-chose. Et d'ailleurs, il y a au sein de ce gouvernement un certain nombre de nationalistes qui n'ont pas très envie de s'impliquer aux côtés de la puissance coloniale française. On attend, pour le mieux. Et si sur le plan militaire, l'effet Delattre a fonctionné, ça c'est incontestable, sur le plan de la politique locale, c'est beaucoup plus discutable. C'est donc à l'étranger que le général français va partir chercher du soutien. Quand je dis à l'étranger, c'est auprès de la puissance tutélaire depuis la libération, la puissance qui arme tous ceux qui veulent bien combattre le communisme. Les Américains sont en train de se battre contre les communistes en Corée. Eh bien, les États-Unis vont devenir l'allié de la France. Qui de mieux que les Américains pour aider la France à combattre le communisme en pleine expansion en Indochine ? La marche commando de Samuel Barber, interprétée par l'unité musicale du président des États-Unis sous la direction de Gérard Schwartz.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Le roi Jean vient d'atterrir à Washington, d'abord de son Constellation, et dès la première interview, là sur le tarmac, il dit « Je viens ici en soldat pour expliquer à mes camarades soldats d'Amérique ce que c'est que le problème de l'Indochine ». Avec cet argument qu'à partir du moment où les États-Unis luttent contre le communisme, eh bien il faut aussi lutter contre les communistes vietnamiens. Il agite de l'âtre la menace d'une intervention chinoise en Indochine et ce que ça voudrait dire en termes d'équilibre dans tout le sud-est asiatique. Et il va se rendre sur le plateau de la célèbre émission de l'époque, Meet the Press, c'est le grand club de la presse américain. Il déclare « En Corée, il y a une guerre contre les communistes. En Indochine, il y a une guerre contre les communistes. En Corée et en Indochine, il s'agit donc de la même guerre. Il n'y a qu'une seule et même guerre en Asie. » On a bien compris quel est le point de vue du général français qui va faire la une du Times. Il est reçu par le président Truman à la Maison-Blanche. Les Américains décident de financer cette guerre à hauteur de 40%. Ils vont d'ailleurs assouplir les procédures de livraison de matériel militaire. Ils les accéléreront. Au départ, ils étaient plutôt réticents à aider la France dans une guerre qui avait quand même de forts relents coloniaux. Mais maintenant, il y a eu cette victoire des communistes chinois en 1949. Il y a la guerre de Corée. Et donc, l'Amérique anticolonialiste de Roosevelt va céder le pas, si je puis dire, devant l'Amérique anticommuniste de Truman. Et face au renforcement de l'armée franco-vietnamienne, du côté du Viet Minh, évidemment, on marque un peu moins de succès militaire. Delattre a réussi son opération. À Paris, le gouvernement est toujours dans une forme d'atermoiement. On est en pleine 4e République. Le gouvernement observe que l'opinion française française se met à douter quand même du succès de ce qu'on considère bel et bien comme une guerre coloniale. Il faut donc une victoire de Delattre. Delattre dit au général Salan, « Ils n'y comprennent rien à Paris. Ils me trouvent statique et sans esprit d'offensive. Ils ne se rendent pas compte que j'ai encore besoin de quelques semaines pour en terminer avec le béton et fabriquer une armée vietnamienne aussi nombreuse que celle de Giap. Ils veulent que j'attaque, que j'en termine. Eh ben, que voulez-vous ? Je vais attaquer. »
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et donc, il est de retour en... Il est de retour sur place à Saigon en octobre 51. Delattre, il va mettre sur pied son plan de bataille. Il exclut toute conquête et occupation de terrain. Ça demande trop d'hommes. Il faut chercher plutôt à aller détruire les forces adverses, purement et simplement. Et pour ça, il faudrait amener le Viet Minh à accepter le combat, mais en lui laissant croire que c'est lui qui a lancé l'initiative. Ce plan va prévoir l'occupation d'une zone au cœur d'une région qu'il juge vitale pour le Viet Minh, où les Français pourraient attendre la contre-attaque et porter comme ça des coups sévères aux forces adverses, faire ce qu'on appelle un abcès de fixation. Il faut trouver un lieu pour cette fameuse bataille et Delattre va choisir à 80 km d'Hanoï la cité de Hoa Binh. La ville est reconquise par la France. La victoire des franco-vietnamiens va s'étaler en caractères gras dans tous les journaux, non seulement d'Indochine mais de métropole, et le Viet Minh va devoir contre-attaquer. Il y perd beaucoup d'hommes, des milliers d'hommes, et les Français peuvent à ce moment-là se retirer en ordre. Autant dire que Delattre a réussi son objectif. L'armée Viet Minh sort affaiblie de ces fameux combats, avec quelques 15 000 hommes tués ou blessés. En France, le gouvernement commence à regarder Delattre comme un héros. En novembre 51, Delattre rentre en France pour participer à la conférence des États associés. Vous savez, on est dans toute cette série de conférences de paix. Après être salué ses soldats à Hoa Binh, il quitte donc l'Indochine. Pour la dernière fois, en vérité, le général est rongé par un cancer de la hanche. Ça fait des mois qu'il subit cela. Il est épuisé par cette carrière totalement dévouée au service de la France. Il a été très affecté, disons-le, par la mort de son fils Bernard. Et il est très malade, au point qu'il va, à la suite d'une opération, s'éteindre à Neuilly-sur-Seine le 11 janvier 1952. Le 15 janvier, à l'occasion des funérailles qui sont célébrées à Notre-Dame pour la partie religieuse et bien sûr aux Invalides, célébration à laquelle assiste non seulement le général de Gaulle, mais Dwight Eisenhower en personne et Montgomery, Jean Delattre de Tassigny va être fait à titre posthume maréchal de France. Personne depuis la grande fournée de la fin de la Première Guerre mondiale n'avait été fait maréchal. Quelques mois plus tôt, en septembre 51, Delattre déclarait « Il peut survenir une catastrophe en Indochine, il ne peut pas y surgir de miracle. » Eh bien, les choses ont décidé qu'on ne verrait ni l'un ni l'autre, mais vous savez bien ce qui va se passer. 2 ans plus tard, ce sera la terrible défaite de Dien Bien Phu. La France va quitter ce Vietnam, mettant fin à une centaine d'années de présence. On a eu l'occasion d'en parler pas mal ici. Et puis, ce sera bientôt au tour des États-Unis de prendre le flambeau et d'aller s'enliser dans cette guerre qui durera 20 ans. Est-ce que Delattre est à l'origine de tout ça ? Un petit peu, peut-être, quand même.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Gaspard Lemarinier et bonjour à Christian Morin.
Bonjour mon cher Franck, merci pour cette évocation de Delattre en Indochine. Dure période, juste après la guerre d'ailleurs, pour la France. Et puis cet après-midi, petit cachotier, vous nous emmenez dans votre région.
Oui.
Diane de Poitiers sera racontée.
Sauf que le Poitiers dont il est question, qui d'ailleurs n'est dû qu'à l'imagination d'Alexandre Dumas, était un Poitiers qui se trouve dans la Drôme. Ça n'a rien à voir avec ma ville à moi, si vous voulez.
Donc, on met ça de côté.
On met ça de côté.
Mais vous retrouverez bien sûr Franck à 14h et demain matin, bien entendu. Bonne journée.